Un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, En colloque se penche aujourd'hui sur Maurice Ravel. Admiré pour le lyrisme et la féerie de son œuvre, compositeur surdoué, il connaîtra le succès dès 1905, à l'âge de 30 ans, avec notamment Habanera ou encore Daphnis et Chloé. La Première Guerre mondiale met un terme provisoire à sa production, et puis après l'armistice, il reprend la composition et son style évolue. Il recherche un art plus dépouillé, preuve en est sa sonate pour violon et violoncelle. Célèbre à l'étranger, il part deux fois en tournée aux États-Unis, puis en Europe centrale. Nous sommes alors dans les années 30. Mais très vite, sa maladie neurodégénérative se manifeste et l'emporte en 1937. Il a alors 62 ans. L'écrivain Jean Echenoz s'est penché sur la fin de vie de Maurice Ravel, qui fut la période la plus douloureuse, mais paradoxalement la plus riche aussi, sur le plan de la création musicale. Il composa les deux œuvres les plus connues de son répertoire, Concerto pour la main gauche et le fameux Boléro. C'est cette dernière partie de la vie de Maurice Ravel qui inspira l'écrivain Jean Echenoz et en a fait un livre intitulé « Ravel, roman ». Il a présenté son ouvrage en septembre 2006 à l'Académie nationale de médecine lors de la journée du livre, dont le thème portait sur les biographies médicales. Originalité de ce colloque, chaque auteur s'est prêté au jeu du question-réponse face à un académicien. Ici, Jean Echenoz répond aux questions de Pierre Rondeau, membre de l'Académie nationale de médecine. Écoutez l'auteur et son lecteur.
Les trois livres suivants analysent autre chose, c'est le rôle de la maladie dans la création musicale ou poétique. Et c'est sûrement un romancier qui nous a fait l'honneur de venir, Jean Echenoz, qui en sera le meilleur traducteur dans cet admirable roman qui s'appelle Ravel Roman. Vous verrez comment il retrouve le rythme du boléro, vous verrez comment les mots, les consonnes, les thèmes sur l'insomnie, la fuite et la mort encadre la vie de ce grand musicien. Alors si vous voulez bien venir, monsieur Echenoz. Donc Pierre Rondeau, merci beaucoup d'être venu parce que vous avez écrit quelque part que vous détestiez les colloques. Alors nous en sommes la caricature, mais tant pis. Sachez bonjour, que la plupart d'entre merci nous ont eu la chance de pouvoir vous lire. Pierre Rondeau est neurologue. Il a dirigé le service de neurologie de l'hôpital Sainte-Anne. Bien sûr, il vous a lu. Alors, à toi d'interroger Jean Echenoz, qui, je te le répète, malheureusement, déteste ce genre de fête, mais qui a accepté quand même de venir.
Alors, vous me permettrez de vous féliciter, monsieur, pour votre livre sur Ravel, parce que Ravel est un de nos très grands compositeurs, presque un contemporain, et que je trouve qu'actuellement, il est un peu négligé au point de vue audience. Ce n'est pas le compositeur qu'on choisit d'ordinaire dans des concerts en premier. Et donc, il est très bon de ranimer cette flamme. De plus, votre livre permet un certain nombre de questions, et parmi celles-ci, je vais en choisir quelques-unes à vous poser. La première question, c'est pourquoi avoir choisi le roman comme genre littéraire ? Ne fait-on pas ainsi courir le risque au lecteur de se demander à propos de tel ou tel événement rapporté s'il est réel ou si c'est une fiction ? Et de plus, le roman donne aussi l'occasion, la tentation d'interpréter la vie intérieure de quelqu'un un peu à sa façon, de prendre les routes qui vous sont habituelles, et c'est ainsi que, lorsque vous avez parlé du voyage aux États-Unis, il y a de grandes considérations sur la mer et sur le voyage dans un transatlantique, ce qui à l'époque était effectivement assez considérable. Mais par contre, on regrette qu'il y ait peu de discussions entre Ravel et les compositeurs qu'il a rencontrés aux États-Unis, ce qui aurait été important à mon avis pour connaître un peu mieux l'auteur. Et enfin, le roman ne permet pas un accès direct aux échanges vraiment personnels, et en particulier, je regrette beaucoup qu'on n'ait pas eu de lettre de Ravel, parce que je pense que dans la lettre, on arrive à s'y pencher davantage et à donner davantage son caractère. Alors, pourquoi le roman ?
Pourquoi le roman ? En vérité, je ne sais pas, peut-être parce que... D'abord parce que jusqu'à présent, je n'avais écrit que des romans. que je me trouvais peut-être dans un état de lassitude momentanée ou pas de la fiction. Et il s'est trouvé que j'ai eu au départ le désir d'écrire sur cette période-là, sur les années 30. Donc les années 30, ayant le désir d'écrire quelque chose sur cette période, et ayant la connaissance depuis mon enfance de la musique de Ravel qui a eu beaucoup d'importance pour moi, j'ai eu envie d'aller chercher de son côté, du côté du personnage. Et à partir de là, j'ai lu, je crois, tout ce que je pouvais trouver, que ce soit biographique, de l'ordre de la biographie, de l'ordre de la monographie, de l'ordre des souvenirs et des récits de témoins, et de l'ordre, on pourra y revenir puisque vous y faisiez mention, de la correspondance. Et c'était un peu le problème de ce livre, c'est qu'il se trouve exactement dans un... Enfin, exactement. Il se trouve sur un fil qui est entre ce qui est de l'ordre du biographique et ce qui est de l'ordre du fictif. Et ce qui nécessitait une ligne à tenir, qui était une ligne extrêmement aiguë et souvent malaisée. Ce qui fait que l'objectif était de prendre tout ce que je pouvais trouver de réel dans ce personnage et tout ce qui était avéré, rapporté, et de le transformer, dans une certaine mesure, en personnage de fiction. Tout en n'abondant pas... c'est pour ça que je parle de fil, tout en essayant de ne jamais le trahir et de garder une vraisemblance de ça. Parce que je veux dire, c'est que je pouvais me permettre certaines scènes imaginaires dans la mesure où elles étaient plausibles, mais il ne fallait pas déborder du côté de l'utilisation d'une biographie romanesque. Ce livre n'est pas une biographie, n'est pas une biographie romanesque, ni une biographie romancée. C'est une espèce d'élaboration à partir d'un sujet qui, je m'en suis aperçu assez vite, ou plutôt dont je pouvais m'emparer de la même manière que je peux m'emparer de personnages de fiction dans les livres précédents. La question qui se pose, enfin les deux questions que vous posiez, c'est par exemple les rapports avec les compositeurs américains. Que je sache, il n'en reste pas grand-chose, sauf un entretien avec George Gershwin, que je résume. Et quant à la correspondance, il y a une grande édition de Harvey Ehrenstein, qui est le biographe américain de Ravel, qui a fait une édition de ses écrits, qui regroupe donc des interviews, des conférences et ce qui restait de sa correspondance. Et cette correspondance n'est pas très quantitativement, elle n'est pas très très considérable. On peut imaginer qu'une des choses que se reprochait Ravel, mais je me demande si ce n'était pas aussi revendiqué quant à sa paresse, ne se retrouve pas dans le caractère très mince de cette correspondance.
Une autre question à laquelle vous avez indirectement répondu, mais enfin indirectement, pourquoi avoir choisi les 10 dernières années de la vie de Ravel ? C'est un gros problème parce que, comme vous le savez, l'enfance est quand même un moment où se dessine en partie conditionner la vie de l'adulte. Et il y a beaucoup d'éléments, on y reviendra tout à l'heure, dans la vie de Ravel, qui sont quand même un peu mystérieux et mal compréhensibles et qui, n'ayant pas les bases de son enfance, reste toujours mystérieux. Alors, en particulier, la naissance d'une vocation est un moment qui est quand même particulièrement important chez un homme, et on aime bien savoir si cette vocation naît petit à petit comme un bourgeon qui va éclore peu à peu, ou si c'est brusquement une révélation qui survient et qui va conditionner toute la vie.
Oui, mais là, vous posez la question de la biographie. C'est qu'effectivement, si mon projet avait été de faire un travail de caractère strictement biographique sur Maurice Ravel, j'aurais évidemment envisagé toute sa vie et son enfance, sa formation et la naissance de ce destin de compositeur. Or, en fait, le Ravel dont je parle et qui est l'objet de ce livre, n'est pas Maurice Ravel. C'est un personnage qui s'appelle Ravel, qui doit tout à Maurice Ravel, mais qui prend une existence oserais-je dire, littéraire, indépendante. Enfin, je le voulais comme ça. En vérité, à partir du moment où j'ai décidé de m'intéresser à lui, ce qui était le cas depuis très très longtemps, à partir du moment où j'ai décidé de m'intéresser à lui, au départ, je ne voulais écrire que sa tournée américaine de 1928. Pour cela, j'avais trop peu d'éléments, et justement, ça laissait trop de place à la dimension romanesque, ce que je ne voulais pas faire. Dans un deuxième temps, j'ai envisagé de le prendre de sa naissance à sa mort, mais ça me semblait à ce moment-là faire une espèce d'écho que je trouvais pratiquement immoral avec les deux biographies qui existent, surtout celle en français de Marcel Marnat. Et donc, il m'a semblé pour moi intéressant de travailler sur les 10 dernières années qui sont, me semble-t-il, le moment qui est l'espace du drame en fait, dans cette vie, c'est-à-dire le moment de ce curieux phénomène musical qui est le boléro, bon, des deux concertos et cette espèce de basculement dans la maladie. En fait, ce qui m'importait dans cette affaire, c'est la dimension de tragédie du personnage et de ne pas traiter cette tragédie d'une façon, en faisant intervenir le moins possible de pathos, mais de la façon la plus détachée, je ne dirais pas clinique, parce que je ne suis pas clinicien, mais de la façon la plus distante. Même si, à l'intérieur de ce récit, je peux prêter des choses telles que les techniques de lutte contre l'insomnie, des choses comme ça, qui sont à ce moment-là de la pure construction. Et où c'est là que peut-être j'ai pu faire passer des choses qui, cette fois-ci, deviennent peut-être un petit peu de l'ordre autobiographique.
J'en viens maintenant à la description même du personnage. Et on est assez surpris d'apprendre qu'il a la même attitude qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ce âge intervient probablement en partie, mais a-t-on trouvé des preuves d'une amitié ou d'une affection particulière durant ces dernières années ? Il est rarement fait mention de véritable amitié avec les hommes. À son départ pour les États-Unis, il a retrouvé à son escale de Southampton, dites-vous, Jean Aubry, qui pour le distraire pendant son voyage lui avait apporté la traduction de Conrad. Il ne l'avait pas revu depuis 30 ans, donc une amitié quand même bien distendue. Et on ne sait pas quels étaient leurs rapports à cet âge. À son retour, se retrouvant seul, soudain, il s'est précipité chez son ami Zogeb à Montfort pour boire un vermouth cassis. Celui qui ici ne connaît rien à la musique, mais il va lui rester fidèle jusqu'au dernier jour. N'est-ce pas étrange que Ravel ait tendance à éviter la fréquentation du milieu musical ? Quant à ses connaissances féminines, il est souvent question d'Hélène Jourdan-Morange, qui va l'aider dans ses détails de sa vie quotidienne. À son retour des États-Unis, il la retrouve au Havre avec Marcel Gérard et Madeleine Gray. Plus tard, il fréquentera Ida Rubinstein. Toutes lui témoignent essentiellement d'admiration et il aurait timidement proposé, dites-vous, à Hélène de vivre à la campagne avec lui, mais leur rapport ne semble pas avoir été très étroit. Vous avez écrit « On ne sache pas qu'il est amoureusement aimé, homme ou femme quiconque ». Même son commerce, semble-t-il, familier avec des prostituées dans une brasserie de la Porte Champéret, n'aurait pas dépassé des rencontres fortuites. Et à Marguerite Long, qui l'a encouragé à se marier, il aurait déclaré que l'amour ne s'élève jamais au-delà du licencieux. Il s'agit là d'une réelle exception dans le domaine des artistes et compositeurs musicaux habituellement très sensibles, ils ne craignent pas de faire état de leur sensualité. Il y a donc là chez Ravel une très importante lacune. On regrette de ne pas disposer de renseignements sur son enfance. Certaines circonstances, peut-être, pourraient expliquer cet apparent mépris. La méconnaissance de ses premières années ne permet donc pas d'éclairer ce comportement singulier. On est aussi surpris, dans sa vie, de rencontrer un Ravel très obsessionnel. 75 cravates, 60 chemises. Y a-t-il là l'origine du boléro ?
Il y a beaucoup de questions. Parce que... En ce qui concerne la vie amoureuse du personnage, bon, je reviendrai à la vie amoureuse. Ce qui m'intéressait le plus chez ce personnage, c'est la quantité de mystères et de masques qui sont inhérents à sa vie. Bon, prenons, puisque vous l'avez évoqué, sa vie amoureuse, ce ne sont qu'hypothèses. En vérité, on n'est absolument sûr de rien. Et après la publication de ce livre, j'ai eu des informations de tout à fait bénévoles qui me donnaient, d'un ton très assuré, des informations toutes se contredisant les unes que les autres. Donc on ne sait rien. Mais c'est une des raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à lui, c'est la quantité de phénomènes contradictoires, autant dans ses personnalités que dans sa vie. C'est-à-dire le mélange d'une vie sociale extrême, parce qu'il est aussi un dandy, et une vie retirée, loin de tout, Montfort-l'Amaury, c'était encore plus loin de Paris à l'époque, une vie pratiquement monacale. Donc il y a quantité d'opposition et d'énigmes dans cette existence brève que ça ne pouvait, outre l'amour que j'ai pour sa musique, que m'attirer sur le plan de la reconstruction de ce personnage. Quant à ce que vous disiez sur le milieu musical, je crois qu'il est très 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 clair que, outre sa position mondaine de garçon qui n'arrive pas à aller se coucher, qui passe son temps, quand il est à Paris, beaucoup de temps dans les nightclubs et dans le monde et dans les salons, il avait aussi, je crois, il a participé de façon très 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 active et très très militante, je dirais, au milieu musical de son temps. Il a eu notamment à un moment où les événements mondiaux faisaient en sorte qu'il y avait de la part d'une société de compositeurs français un désir de boycotter tout ce qui était de la musique allemande. Il a eu une position d'un courage extraordinaire en s'opposant à ça, au risque d'être lui-même censuré dans son œuvre. Et je crois qu'il a été attentif à tout ce qui se faisait de son temps sur le plan de la musique française, et aussi sur le plan de la réception qu'il a pu avoir des débuts de la musique de jazz, pour musique neuve, dont on trouve des traces dans certaines de ses œuvres. Cela dit, il faut que je revienne quand même. Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que ce que vous rapportez d'un passage de ce livre, qui est sa rencontre avec Jean Aubry, cette rencontre est parfaitement imaginaire. Elle est simplement de l'ordre du vraisemblable. Parce qu'il avait un lien avec Jean Aubry, un lien amical, il est allé voir souvent à Londres, mais à partir du moment où je savais que Jean Aubry, à ce moment-là, vivait à Londres, j'ai imaginé qu'il venait le voir à Southampton avec cette traduction qu'il a effectivement publiée en 28, cette traduction de Conrad. Il fallait jouer, pour moi, je ne sais pas pourquoi, il fallait jouer avec des zones d'ombre. Par exemple, la rencontre avec Joseph Conrad, que je relate, est niée par certains de ses biographes, dont Marcel Marnat, qui pense qu'en fait les liens entre Conrad et Ravel se sont bornés au cadeau d'une cartouche de cigarette, et d'autres récits font état d'une deuxième rencontre de Conrad avec Ravel, cette fois-ci en présence de Paul Valéry. Ça, je l'ai appris un peu trop tard, ça aurait été pas mal de travailler sur cette scène. Quant aux personnages, les liens d'amitié que vous rappeliez tout à l'heure sur le personnage de Jacques de Zoghèbe, il me semble que, d'une façon un petit peu métonymique, le personnage de Zoghèbe est très très emblématique de la situation de Ravel. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches à la BNF, j'ai cherché partout, il a existé, il ne reste absolument aucun texte de lui, Jacques de Zoghèbe, alors qu'il était censé écrire, il ne reste aucun portrait de lui, on sait simplement que c'était un ami intime. Et je pense qu'il y avait cette coexistence entre le très vif intérêt de Ravel pour l'actualité musicale, pour ce qui se faisait, pour ses élèves, pour ses disciples, même ses disciples qui l'attaquent, au contraire, ça l'intéresse beaucoup, et la familiarité avec quelqu'un comme Zoghèbe qui apparemment n'était pas du tout de ce milieu-là et n'entendait pratiquement rien à ce qu'on appelle l'histoire de la musique ou la musique tout court. Et je suppose que c'était peut-être une part de délassement chez Maurice Ravel d'avoir enfin quelqu'un qui n'était pas de ce milieu-là.
Et une obsession ?
Et une dernière question.
Les obsessions ?
Oh, sur les obsessions, non, la garde-robe qui pourrait être considérée comme un... Oui, c'était un dandy, il suffit de voir la grande quantité de photographies qui demeure, mais la garde-robe, je l'ai inventée, je pense qu'elle est un petit peu hyperbolique par rapport à la réalité, mais pas tant.
Merci.
Tu as encore un mot ?
C'est pas une question, mais c'est un peu une mise au point, parce que ça m'est difficile de ne pas parler de la maladie d'Alzheimer en tant que neurologue.
Il a une maladie d'Alzheimer.
Il avait une maladie d'Alzheimer. Ça paraît absolument certain, d'après les signes qui sont transmis ici. Et ses troubles mentaux, en particulier l'aggravation importante de ses oublis d'autrefois, qui prennent un tour pathologique alors qu'il était en particulier en train de faire sa tournée avec Madame Long, avec Marguerite Long, en disent déjà long à ce sujet. Ce qui est assez curieux, c'est que c'est une époque aussi où il a créé le boléro et où il a créé le concerto pour la main gauche. Mais on peut se demander si l'un et l'autre ne sont pas en rapport avec ces hyperactivités que l'on a quelquefois au début des maladies d'Alzheimer, où il y a une espèce de coup, d'aura, tout d'un coup, qui fait que les gens sont un peu au-dessus d'eux-mêmes pour ensuite tomber dans la déchéance. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a pu voir chez Ravel à ce moment-là.
Moi, si je peux intervenir, je voudrais vous interroger d'une manière tout à fait différente de ce qu'a fait M. Rondeau. Donc, tu as dit, c'est très important, il marche le micro là, que c'était une maladie d'Alzheimer. Et Pierre Rondeau vous a beaucoup interrogé sur ce que vous n'avez pas dit. Mais je m'en fiche. Moi, je trouve que rarement on a aussi bien décrit la fin d'un homme ou d'une femme. C'est une fin. C'est une fin abominable. Au début, il y a tout le côté, Southampton, machin, le voyage. Et puis, à partir du moment où, à je ne sais quelle ambassade, il oublie un temps de composition, alors là, vraiment, on voit apparaître totalement la déchéance comme... C'est pour ça que je pense qu'en 3 minutes, un bon neurologue reconnaît qu'il s'agit d'une maladie d'Alzheimer.
Et je voulais poser une question.
Ben vas-y, pose-la, mais je voudrais qu'on reprenne un petit peu ça.
C'était pourquoi ne pas avoir reproché au médecin de l'avoir opéré contre son gré et de l'avoir ainsi tué, de vouloir bien faire du chirurgien et beaucoup trop souvent donner comme excuse un geste non seulement inutile, comme dans le cas de Ravel, où aucun symptôme ne permettait de supposer la présence d'une tumeur, mais qui est rapidement néfaste, comme la suite allait le montrer.
On est en 36. Il n'y a aucun moyen de diagnostic.
Si, il y a la clinique.
Oui,
capitale.
Mais
pour Alzheimer, ça vaut tous les moyens.
Non, il hésite un peu. Non, le premier musicien de français. Parce qu'on dit que Ravel est inconnu, c'est complètement faux. Le boléro est ce qui est joué le plus souvent sur toutes les radios du monde.
Le boléro,
bon, c'est comme ça.
Le boléro.
C'est déjà pas si mal. Non, c'est déjà pas si mal. Et ce que je trouve d'admirable dans votre livre, c'est que vous décrivez la fin d'un homme. Ce qui n'était pas... Mais je vais prendre un autre micro alors, parce que... Bon, ce qui n'était pas... Vous décrivez ce qui n'était pas du tout le reste de vos livres. Et là, je voudrais simplement 3 points. Premièrement, la description du boléro. Eh bien, vous écrivez en lettres le rythme du boléro. Ce sont des rythmes. Vous dites, je ne veux pas être poète, pourquoi je ne suis pas poète, je sais très bien écrire des alexandrins, mais ça m'ennuie, etc. Et quand vous décrivez comment il compose le boléro, pas besoin de forme à proprement parler, ni de développement, pratiquement pas besoin de moduler non plus, juste du rythme et de l'orchestre, la musique cette fois-ci n'a pas grand importance. 1, 2, 3, 4, il y a un rythme. Ensuite, joue et rejoue d'un doigt cette phrase sur le clavier. Essaie de la répéter, mais sans la développer. Juste en faisant monter l'orchestre et le gradé au mieux tant qu'ils le pourraient. Bon, ils veulent qu'on répète. Eh bien, d'accord, on répétera. Ils en auront de la répétition. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il n'a pas de forme à proprement parler. Pas de développement ni de modulation. Juste du rythme et de l'arrangement. Bref, c'est une chose qui s'autodétruit. Une partition sans musique. Une fabrique orchestrale sans objet. Un suicide dont l'arbre est le seul élargissement du son. Donc par les mots, par le rythme, c'est pas la rime, c'est le rythme, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Je trouve que, pour moi qui suis un musicien, pas du tout musicien, je croyais entendre le boléro et je voulais préparer pour le son qu'on fasse apparaître le boléro, mais j'aurais été particulièrement ridicule dans mon commentaire, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Deuxième chose, la force des mots. Alors pour nous médecins, quand on voit cette opération inutile, il y a quand même une justification. Le plus grand musicien français va pas bien. Ils étaient deux, quoi. Un des grands musiciens français va pas bien.
Enfin, on n'ouvre pas la tête pour ça.
Comment ?
On n'ouvre pas la tête pour ça. Ça n'a aucun sens.
36,
c'est ridicule.
En
ah non,
36.
Et surtout à 36. En 36, où c'était le début de la neurochirurgie, où on tuait les 80% des malades.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si en 36, on n'essaie pas de lui faire tenter toutes les chances. C'est ce qui est dit. Et Clovis Vincent n'était pas un aventurier. C'était
Il opérait facilement.
Bon, alors, on l'opère. La description de l'opération est exceptionnelle. L'opération ratée est l'utilisation du « on ». Et c'est là où vous êtes un grand écrivain. On lui scie la boîte crânienne, puis on ouvre transversalement la dure mère. On tombe sur un cerveau légèrement affacé à gauche, mais plutôt normal. On ponctionne la corne ventriculaire. On lui injecte un peu d'eau. Bref, on n'est pas très avancé. On renonce, on referme l'orifice d'injection, puis laissant la dure mère ouverte, on remet en place le volet que l'on suture au fil brun. C'est de la grande écriture. Et on a l'impression de voir les choses, plutôt d'entendre.
Ce n'est pas grand mérite là-dessus, il suffisait de réécrire le protocole opératoire de Clovis Vincent.
Lisez les protocoles opératoires, et pour tous les chirurgiens qui sont ici, il n'y a pas un protocole opératoire qui fait entendre autant le bruit d'une intervention. Car c'est... Mais... Vous en rendez pas compte, mais c'est de la grande écriture. C'est comme la fuite vers la mort. C'est très important que vous parliez de... dans vos romans, on fuit tout le temps. Tout le temps. On fuit tout le temps. On se fiche à travers le monde. C'est ça. Et là, je trouve que vous changez, puisque il fuit rien du tout. Il va vers la mort. Alors, la technique... de la mort. La technique, la maladie d'Alzheimer.
Il ne voulait pas être opéré.
Comment ?
Il ne voulait pas être opéré.
Non, mais attends, c'est autre chose. Il est opéré. Bon, on ne va pas changer, on s'est trompé, comme s'il n'y avait pas d'autres erreurs médicales. On s'est trompé, on l'opère pour rien. D'accord. Mais on n'y est pour rien. Là, il retrouve la vérité. Il retrouve la vérité.
Quelle vérité ?
Il décrit la vérité biographique. Il est opéré par le premier chirurgien, un des deux grands chirurgiens.
C'était le seul actuel.
Comment ?
C'était le seul actuellement à l'époque. Il y avait de Martel.
Raison de plus.
Il y avait de Martel et lui.
De temps en temps, dans la vie, quand il y a des drames, on tente les chances. On tente la chance de l'opération. Pour quelqu'un très bon.
Ça, alors, t'es dangereux, hein ?
Bon. Attendez. Non, j'ai pas fini, là. Non, parce que je trouve que vous avez la chance d'avoir un grand romancier et que vous lui reprochez ce qu'il n'a pas dit. Or, il décrit la fin d'un homme qu'un Alzheimer. Et ça, il faut relire le livre. Il y a le rythme du boléro. Bon, il y a deuxièmement le « on », qui est quand même, c'est pas du tout la description banale d'un compte-rendu opératoire. D'ailleurs, le « on », vous le réutilisez. Dans Les Grandes Blondes, il y a un personnage qui a des ennuis, hein, qui est poursuivi, puis elle prend une décision, alors qu'elle est sur les water closets, eh bien, elle écrit en « on ». Elle veut se tirer, je ne sais pas ce qu'elle dit. Mais ce « on », cette technique, vous l'avez déjà dite. Et puis, il faut que je reprenne un autre micro. Et puis, il y a l'évolution de la pathologie vers la mort. Et en particulier, l'insomnie. L'insomnie, c'est un de vos grands thèmes. Bon, on le retrouve souvent dans vos personnages. Quand ça ne va pas, ils sont insomniques. Et là, l'insomnie, vous changez de méthode pour lutter contre l'insomnie. Au début, quand il est à peine malade, qu'il revient des États-Unis, la technique, c'est transformer une histoire en rêve. Bon, avant le boléro, ça. La deuxième technique, juste après le boléro, adapter le corps au lit. Mais pourquoi dormir seul ? C'est là où il y a le thème de la femme qui n'est pas là. Après l'oubli, pendant la sonatine, bon. Ensuite, s'imposer une énumération, comme celle des lits. Ça se passe après l'accident de taxi, quand il va se baigner à Saint-Jean-de-Luz. Et puis à la fin, c'est fini, ce sont les barbituriques. Et je voulais vous demander si ce thème, parce que le thème du livre, c'est pas Ravel, c'est la fin d'un homme. C'est la fin d'un homme qui se défait, qui fiche le camp. Et je trouve qu'on décrit admirablement cette fin, cet homme qui voit tout disparaître, qui perd ses moyens. Parce que c'est pas du tout un de vos thèmes, est-ce que le fait que vous ayez écrit quelque chose sur Jérôme Landon ne vous a pas poussé vers la fin d'un... Pour Jérôme Landon, vous apprenez, et puis ensuite vous vous promenez à Trouville. Bon, Mais là, le thème de la mort apparaît fortement. Autrement, vos personnages qui me... Comment s'appelle? Au piano. Il ressuscite le personnage. Il est mort. Alors, hop, il va, je sais pas si c'est l'enfer, on sait pas très bien où. Il revient sur Terre, il devient pianiste d'autre chose. Mais, je veux dire, il a une autre vie. Là, vous abordez avec Jérôme Landon, parce que c'était un souvenir, et avec Ravel, vraiment la mort. La mort telle qu'elle peut apparaître. Et je trouve que si, après votre premier roman, ou si avec après le lac, etc., on n'aurait jamais pu imaginer que vous parliez de la mort. Vous avez une écriture qui est heureuse. Vous parlez des choses qui font sourire. Le sourire est très souvent là. Là, on ne sourit plus du tout. Si on est bien élevé, alors on ne se confie pas. Mais on arrive dans des drames. Est-ce que je délire ou non ?
Non, je ne pense pas.
Pourquoi délirer ? Écoute-le-moi.
Non, je j'établirai pas de lien entre le livre que j'ai écrit autour de Ravel. Oui, non, parce que le petit livre que j'avais écrit sur Jérôme Landon c'était le désir de fixer des souvenirs, les souvenirs que je gardais et que je garderai, j'espérais garder, de quelqu'un qui a été mon éditeur pendant 20 ans et pour qui j'avais de l'amitié, enfin pour autant qu'on puisse être ami avec un éditeur. Pour moi, ce n'était pas lié. L'histoire Ravel, et je pense... après la publication de ce livre, on m'a dit que j'avais fait une espèce d'autobiographie, ce qui était tout à fait faux, mais je n'ai jamais envisagé ce livre comme ça, comme une autobiographie masquée, mais je ne l'ai pas choisi non plus par hasard. C'est que son rapport au travail est quelque chose que je trouve très émouvant et qui me renvoie, toute proportion gardée, au rapport qu'on peut avoir avec son propre travail, dans mon cas par exemple. C'était la reconstruction ou la reconstitution imaginaire d'une intimité avec un personnage éminemment mystérieux. Je pense que je connais moins bien la vie de Claude Debussy que celle de Maurice Ravel, mais je crois que la vie de Debussy est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus, malgré tout ce qu'il voulait masquer lui-même, mais ça c'est notre problème, et beaucoup plus visible. Ravel, c'est à la fois une œuvre ouverte et un personnage opaque. Et une œuvre à laquelle j'ai été sensible pour moi dès l'enfance. Et ce qui m'a intéressé, encore une fois, c'est que plus j'ai avancé dans la tentative de voir ce personnage, et plus il m'échappait. Et je crois que c'est une des raisons qui ont fait que j'ai insisté dans la fabrication de ce petit livre. Quant à la mort, mon Dieu, je pense que... Peut-être que la mort a déjà été présente en fait, depuis les premiers livres, mais peut-être de façon beaucoup plus romanesque et beaucoup plus dérisoire. Là, c'était pour moi une mort émouvante. Celle de mes personnages de fiction ne l'est jamais, en vérité.
Ah oui.
Oui. Ou alors c'est une émotion elle-même un peu distanciée.
Même celle de Ravel.
Ah non, pour celle de Ravel, c'était non, j'ai vécu dans l'histoire et dans la fin de Ravel en travaillant sur ce livre, j'ai vécu dans une émotion que je trouvais même parfois disproportionnée à mes réactions habituelles quant à ce que je peux fabriquer.
Ayant trouvé votre livre en librairie de gare, je l'ai acheté et je l'ai lu pendant le voyage du TGV. Et comme l'a dit Jacques-Louis Binet, j'ai été vraiment transporté parce que vous avez fait un personnage très ressemblant. Très ressemblant, avec son côté physique, tout petit bonhomme, un peu ridicule, guindé, dandy, toujours soucieux de l'habit. Et ne se trouvant bien finalement qu'avec des enfants. Et c'est pas pour rien que Ma mère Loi a été écrite à quatre mains pour des petits-enfants. L'enfant, il est sortilège. Donc, il n'était bien qu'avec eux et finalement mal dans le monde des adultes. Et vous avez évidemment décrit cette période terminale qui est la période dramatique qui nous a privés certainement de chefs-d'œuvre parce qu'il le disait à la fin qu'il avait en lui de la musique mais qu'il ne pouvait plus l'exprimer. Alors il y a un certain temps, c'était en 87, c'était le cinquantenaire de sa mort, On m'a demandé de faire un papier et j'avais fait la bibliographie en ce qui concerne cette fin et j'ai trouvé, et j'avais lu à l'époque, la relation de Alain Joannine qui avait été consulté et qui a fait une remarquable description de ce qu'on peut appeler une amusie. Et il ne pouvait plus jouer certains morceaux de Ma mère loi, alors qu'il pouvait jouer le début du Tombeau de Couperin, qui est autrement plus difficile. Il y avait des distorsions extrêmement remarquables, de même la dictée musicale. Il ne pouvait pas arriver à écrire de la musique.
Oui, mais il arrivait à diriger un orchestre très bien. Donc c'était très dissocié.
Très dissocié, bien qu'il n'a jamais été un très bon chef d'orchestre, il y a un très bon pianiste de ses œuvres. Donc on a une documentation. Quant à Clovis Vincent, qui était attaqué tout à l'heure, sans vouloir le défendre, mais on peut dire qu'il y avait cette histoire du traumatisme dans le taxi, et peut-être qu'ils ont pensé qu'il pouvait avoir un hématome sous-dural, un hématome extradural, et qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Donc, est-ce que c'est une maladie d'Alzheimer ? Bon, j'ai mis ce titre-là, maladie d'Alzheimer, d'autant qu'il y avait deux Américains nommé Christie, qui avait écrit dans le JAMA en 1985 et D'Alesio en 1984, Ravel et la maladie d'Alzheimer, je m'étais cru autorisé, mais je crois, et là je m'adresse à M. Rondeau, n'est-ce pas une maladie de pic ? C'est une atrophie cérébrale, on n'a pas d'anatomie pathologique. Importante. Donc le problème est entier, mais peu importe, ça nous a privés certainement de chefs-d'œuvre et c'est ça qui est le plus regrettable.
Alors André Orango a eu les confidences du professeur Alain Joannine.
Oui, il y a un peu plus de 35 ans, dans le cadre d'une exposition sur Ravel, avec mon professeur de piano, nous sommes allés voir Alain Joannine et nous lui avons posé la question. Pourquoi est-ce que Clovis Vincent a opéré Ravel, alors qu'Alain Joannine y était fortement opposé ? Et Alain Joannine a réfléchi un moment, il détestait Clovis Vincent, il nous a répondu « Oh, il voulait simplement voir comment était fait le cerveau de Ravel ».
Bon, je crois qu'il faut s'arrêter là, mais je crois qu'on a... Non, on s'arrête là, je suis désolé, on en reparlera après.
Vous venez d'entendre l'écrivain Jean Echenoz qui défendait son livre face à Pierre Rondeau, membre de l'Académie nationale de médecine. Je rappelle le titre de son livre, Ravel, roman, publié aux éditions de Minuit en 2006. Ce jeu de questions-réponses original entre écrivain et académicien était organisé en septembre 2006 à l'occasion de la journée du livre de l'Académie nationale de médecine. Retrouvez d'autres interventions d'auteurs et d'académiciens, notamment sur la vie de Freud, de Rousseau ou encore de Bartok, dans la médiathèque de notre radio. Comme toujours, elles sont en libre téléchargement. Alors à très vite sur Canal Académie.